Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Johanna Murphy qui vient nous présenter l'organisme Carrefour Aliénation Parentale, qui va nous aussi nous expliquer ce que c'est l'aliénation parentale. À l'espresso allongé, Pierre nous amène son sujet, l'importance de la routine chez l'enfant. Notre invité en début de deuxième demi est un parent qui a vécu l'aliénation parentale, qui va nous parler de son expérience. Alors tout ça dans le menu de Folie Douce cette semaine. On commence en chanson avec Liana et la chanson s'intitule « On the Run ». Bienvenue à Folie Douce.
Donnons la parole à ceux qui n'arrivent pas toujours à se faire entendre.
J'accueille maintenant mon invitée, Mme Johanna Murphy. Bonjour, Mme Murphy.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes intervenante spécialisée de l'organisme Carrefour Aliénation Parentale, un sujet qu'on va apprendre à connaître. Moi, personnellement, je ne connaissais pas ça, puis ça m'a intéressé de vous inviter justement pour en apprendre plus sur le sujet. Comment on peut expliquer d'abord l'aliénation parentale, c'est quoi?
Résumé, simplement, l'aliénation parentale, ça se résume en disant que c'est le rejet injustifié et inexplicable d'un enfant envers un de ses deux parents. C'est très important de comprendre que il y a par exemple 5 facteurs et indicateurs dont on doit tenir en compte pour être capable d'identifier qu'on est dans une situation dynamique d'aliénation parentale. Entre l'enfant et son parent ciblé et rejeté, un lien d'attachement avant la rupture. Il faut savoir que l'aliénation parentale, ça survient principalement en situation de post-séparation. Les comportements aliénants peuvent survenir également durant quand la cellule familiale elle est intacte.
Ouais.
Mais à partir du moment où il y a séparation, éclatement de la famille, quand il y a de l'aliénation parentale, c'est que le lien d'attachement était... il y avait un bon lien d'attachement entre le parent et l'enfant. Il n'y avait pas d'abus, donc pas d'abus physiques, sexuels ou de négligence due à de la consommation, par exemple, à de la dépendance. Il y a des comportements aliénants d'un des deux parents et il y a le rejet de l'enfant envers un de ses parents. Et l'enfant est un acteur dans ce rejet-là. Il va dire, par exemple, c'est pas papa qui dit ça, c'est moi. Et il a ce rôle, papa ou maman, mm-hmm. Il n'y a pas de genre
selon
dans
la relation
parentale. Exactement. Il a un rôle, c'est lui qui joue le rôle dans le rejet. Donc le parent dit favorisé et aliénant va souvent se cacher derrière la volonté de l'enfant. Il va dire, je ne suis pas responsable de ça, ton enfant ne veut plus te voir, mais c'est parce que tu n'as pas une bonne relation avec lui. Mais il y a derrière tout ça une influence, il y a des comportements aliénants, qu'ils soient conscients ou inconscients chez le parent aliénant, qui va forcer l'enfant, qui va amener l'enfant à rejeter un de ses deux parents.
OK, ça part d'abord soit d'action, de façon de faire, de façon de vivre, puis là, l'enfant ne se reconnaît plus, ou je ne sais pas, il trouve pas que c'est une bonne situation, donc il rejette le parent, c'est un peu ça?
Oui, en fait, c'est que une situation d'aliénation ne va pas exister sans que l'enfant se retrouve à un moment ou à un autre dans un conflit de loyauté. Il reçoit un message direct ou indirect, conscient ou inconscient, de rejeter son parent. Par exemple, un parent qui a beaucoup de difficultés à accepter la séparation et pour qui l'identité sociale passe par la famille ou la paternité ou la maternité et qui a beaucoup de difficultés à admettre le fait qu'il n'est pas à temps plein avec son enfant, va projeter sur son enfant sa peine, ses désirs d'être de relations fusionnelles, par exemple. Et il s'agit qu'un enfant soit exposé à un parent qui soupire comme un roseau une demi-heure avant le moment où il doit aller chez son parent, pour que l'enfant enregistre « maman ou papa n'aime pas ça quand je m'en vais chez papa ou maman, chez l'autre parent. » Et il va intérioriser ça, et il va en venir doucement, mais sûrement, à ne plus avoir envie d'aller voir son autre parent. Souvent, les professionnels, les psychoéducateurs, par exemple, qui vont intervenir auprès des enfants, vont dire « oh, il y a mal au ventre avant de retourner chez un parent. » Et on va lire à l'inverse la raison, le symptôme. On va croire que c'est parce qu'il n'a pas envie d'y aller qu'il a mal au ventre, mais c'est parce qu'il a peur de faire de la peine ou il sait que ça s'en vient, ces comportements-là, par exemple, du parent aliénant. Ça, c'est dans une situation d'aliénation inconsciente ou involontaire. Une aliénation volontaire, consciente, c'est par exemple un parent qui n'accepte pas la rupture, qui veut dire à l'enfant « ta mère ou ton père nous a abandonnés », et il va y avoir un désir de punition ou de vengeance. Ça, c'est de l'aliénation qui est constante, volontaire, et où il y a un désir d'exclusion parentale. C'est très, très rare qu'on se retrouve dans une situation ou une dynamique d'aliénation où il n'y a pas un désir d'exclusion. Il y a également, puis ça, c'est quand même assez important de le dire, parce qu'il y a beaucoup de parents qui vont vivre une belle séparation. Et là, tout à coup, quand il y a un nouveau conjoint qui arrive dans le décor, le parent a envie de refaire sa vie, ne veut pas trop se badrer des contraintes ou des conséquences de la coparentalité, et là, va tranquillement rejeter l'autre parent. Alors qu'il y avait une belle coparentalité, l'arrivée d'un nouveau conjoint va totalement faire dévier la coparentalité puis la relation entre un enfant et son parent.
Est-ce que, justement, Murphy, est-ce que l'aliénation parentale, c'est un sujet qui existe depuis longtemps? On s'y penche et puis on s'y intéresse depuis longtemps ou c'est récent quand même?
Non, ça fait quand même, la science, elle est quand même assez claire là-dessus. Là. Ça a été identifié, les premiers écrits scientifiques par rapport à ça datent des années 1980. Depuis, la science a évolué, c'est quand même un sujet qui est assez controversé parce que l'aliénation parentale, il faut comprendre que c'est un continuum. Au Québec, par exemple, on va parler d'aliénation quand l'aliénation est avérée, c'est-à-dire que le rejet est fait, il y a eu rupture de lien. Or, l'aliénation, c'est un continuum. Ça commence à partir du moment où un enfant est exposé à des comportements aliénants. Mais c'est controversé parce que ça a d'abord été établi d'un point de vue scientifique par rapport à un syndrome. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un enfant est en rejet, il est comme possédé, puis il va rejeter de manière injustifiée son parent. Mais ça évolue et aujourd'hui, on est de plus en plus habilité à en discuter, en fait, intelligemment et,
oui.
et de manière...
Et est-ce que ça touche beaucoup de gens? Avez-vous une idée? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des statistiques là-dessus? Est-ce qu'on peut savoir le nombre de parents, un pourcentage ou de familles, par exemple?
Oui, le nombre... Le nombre exact de familles au Québec, c'est quand même très important parce qu'il y a 25 % par exemple des familles qui vont vivre des situations, des séparations conflictuelles.
Ouais.
Puis sur ce nombre-là, 10 % vont se retrouver pourraient se trouver en situation d'aliénation parentale.
OK.
Et donc c'est énorme.
Oui, quand même. On n'a pas mentionné, on a mentionné tantôt dans l'intro, mais le Carrefour Aliénation Parentale, c'est l'organisme là, qui aide plusieurs familles, plusieurs parents, je m'en... sur ce sujet-là. Quand est-ce qu'il a été fondé et pourquoi il y avait un manque, apparemment?
En fait, oui, le Carrefour Aliénation Parentale a été fondé en 2017 par la présidente fondatrice, Caroline Paradis. Caroline Paradis, c'est un parent qui était elle-même aliéné. Donc, elle a été en rupture de lien avec ses deux enfants. Et quand c'est une rupture du jour au lendemain. Donc, quand c'est arrivé... Elle a cherché de l'aide, elle n'en a pas trouvé. Elle s'est tournée vers les tribunaux, ça a été un cul-de-sac, elle s'est tournée vers les services les psychosociaux, ça a été aussi un cul-de-sac. Et elle n'arrivait pas à trouver au Québec des ressources pour répondre adéquatement à sa situation. Alors elle s'est tournée vers l'international et elle a, pendant 5 ans de temps, étudié ça, colligé l'information, et elle a fondé le Carrefour Aliénation Parentale pour venir en aide aux familles principalement. Pour que d'abord et avant tout, les familles qui sont touchées comprennent ce qu'ils vivent pour ensuite être en mesure d'intervenir adéquatement auprès de leurs enfants. Parce que l'aliénation parentale, ça se déjoue. Mais il faut être en mesure d'identifier cette situation-là.
Les premiers signes, peut-être.
Exactement, les premiers signes.
Et comme intervenante, vous êtes directement impliquée là, avec les familles et tout ça. Comment ça fonctionne, les services? Disons, vous êtes intervenante spécialisée, vous rencontrez les gens, vous me dites avant d'entrer en onde que ça peut prendre même plusieurs heures à faire le point avec les parents puis bien comprendre la situation. Donc, qu'est-ce que vous offrez comme service?
En fait, le Carrefour, il y a le site Internet où il y a toute la théorie et aussi quelques mises en pratique pour les parents. Les professionnels viennent aussi au Carrefour pour se renseigner, s'éduquer, s'informer. Mais les parents, les services qu'on offre aux parents, c'est de l'accompagnement individuel, c'est des groupes de soutien pour des parents qui sont en rupture de lien, donc qui n'ont plus de contact avec leur enfant, des cafés-rencontres où il y a des partages et de l'analyse psychosociale et juridique. Et dans l'accompagnement individuel, on va faire ça, de l'analyse psychosociale et juridique, c'est-à-dire comprendre quels sont les besoins de la famille ou du parent et de l'enfant d'un point de vue psychosocial. Par exemple, est-ce que ce serait important qu'on cogne à la porte du CNCLSC, d'un psychologue et juridique également? Ils en sont où? Est-ce que c'est pertinent d'aller à la cour? Est-ce qu'il faut contacter la DPJ? Il serait préférable d'aller en médiation? Et on leur explique principalement aussi qu'est-ce qu'ils vivent et comment ils peuvent le prévenir ou comment ils peuvent apaiser leur enfant qui reviennent, par exemple, d'un changement de garde et chargé. Parce qu'un enfant qui est pris dans un conflit de loyauté sévère va revenir chargé de tout le poison auquel il aura été exposé durant la semaine chez l'autre parent. Et il y a des techniques à appliquer. Par exemple, la technique ADR qui consiste à accueillir, dédramatiser, recadrer. Gens peuvent... Oui.
Mais ça se règle, ça peut se régler parce que c'est pas sans espoir. Là. Si des parents nous écoutent puis vivent ça, ils se reconnaissent, peut-être qu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils vivaient, mais finalement, ils voient bien qu'il y a une problématique qui existe et que d'autres parents sont touchés. Donc, ça peut se régler, là. On peut trouver des solutions.
Oui. Mais c'est très important de comprendre que plus tôt on intervient dans le processus à l'exposition de comportements aliénants ou d'une dynamique d'aliénation, oui, on peut intervenir puis limiter les dommages. Mais parfois, il faut quand la pression est très forte, on aura beau offrir toute la résistance ou les soins adéquats. C'est quelque chose il y a de l'espoir. C'est très important de le dire. Vous avez raison. Mais la prévention, la sensibilisation, l'éducation est primordiale. Parce que même les intervenants sont très peu formés à ça. Et ils se retrouvent souvent dans des situations où il est comme trop tard. L'enfant, il est pris pris, tellement pris dans un conflit de loyauté qu'il en vient à cette situation où les, sur le spectre là, des comportements aliénants et de la dynamique, où il se retrouve à la fin vers un risque de rupture de lien ou en rupture de lien. Et là, c'est très difficile de faire marche arrière.
C'est important de bien faire connaître cette problématique-là, parce que je ne dois pas être le seul, mais je n'avais jamais entendu parler. Je pouvais concevoir que des situations comme ça qui pouvaient exister, sauf que de le nommer comme ça, de dire c'est une problématique en soi, c'est intéressant que les gens le sachent.
Là. Absolument, c'est très important. Parce que c'est beaucoup plus fréquent qu'on pense.
Ouais.
Parce qu'à peu près dans toutes les familles où il y a séparation, il va y avoir des comportements aliénants de manière involontaire. Le problème, c'est quand, l'aliénation, ça se passe sur la fréquence et l'intensité. Et plus un enfant est exposé à des comportements, à des attitudes aliénantes, plus c'est fréquent et intense, plus il va être appelé à rejeter son parent.
Et peut-être certains enfants sont plus sensibles à ça, d'autres vont passer à travers ça, puis
exactement.
On se dit, ben, c'est un peu normal, là, le conflit entre les parents qui se séparent. Hein.
Exactement. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qu'on va dire qu'ils ne sont pas aliénables. Ça peut dépendre des tempéraments. Un hypersensible va peut-être intérioriser. On ne va pas se rendre compte du tout qu'il est affecté par ça. Puis tout à coup, la pression va tellement être forte qu'il va en arriver à dire, bon, c'est terminé. Moi, je n'en peux plus. Alors, je choisis mon camp, donc je vais aller vers le parent aliénant. Parce qu'il faut comprendre aussi que l'enfant répond aux besoins du parent aliénant, que ce soit de rejeter ou que ce soit de le protéger, de répondre à son besoin d'affection ou d'être rassuré.
L'enfant sent qu'il y a quelque chose, puis là, prend peut-être la décision de tenter d'amoindrir son...
C'est pas tant qu'il prend une décision, c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus le choix. Parce que la pression est tellement forte, il ne peut pas faire confiance à son instinct. Son instinct lui dit « moi, j'aime mon parent » l'influence qu'il reçoit, le message qu'il reçoit, c'est « tu ne devrais pas aimer ton parent et tu devrais le rejeter
».
Alors, à un moment donné, l'enfant, il snap.
C'est déjà terminé. On va donner les coordonnées. En fait, le site web, peut-être la meilleure façon pour en savoir plus puis avoir les infos. Qu'est-ce qu'on cherche?
C'est très simple. C'est carrefouraliénationparentale.ca.
Ben excellent. On va chercher ça certainement. Merci
Et il y a également la page Facebook.
Oui, on cherche la même chose, Carrefour Aliénation Parentale. Merci beaucoup, Mme Murphy, Joanna Murphy, donc intervenante spécialisée. Puis pour en savoir plus, on va évidemment voir votre présence sur Internet. Merci beaucoup.
Plaisir.
Au revoir.
Famille, tu as l'aide d'une aiguille, le beau et le laid, toi tu sais ce que tu veux, ce qui te plaît. Paris c'est trop petit pour toi, tu préfères partir à dos doigts, parcourir de ta langue les corps des anges de la drague à color. Ta résidence secondaire et tu ne sais où sur la terre, entre jet lag et gueule de bois, tu te souviens de lui parfois. Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es? Tes yeux sont des lasers broyeurs, tu préfères jouer les agresseurs, t'adores faire l'amour à quatre pattes, tu es né en 84. Garde sur l'écran, tu fiches tes rides dans le temps, tu t'éparpilles dans les airs, grâce à lui, grâce à ton grand frère. Toutes ces photos de ta vie, tu les regardes dans ton lit, elles ne te laissent jamais seule, ton image sera ton linceul. Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es? Sais-tu vraiment qui tu es? Tu as déjà vomi l'Asie, les Amériques sont tes amis. Quand tu nous parles de l'Europe, tu dis d'elle qu'elle est une salope. Tu aimes adorer ceux qui mentent, le passé tu le réinventes. Ta honte tu ne la racontes pas, ton histoire tu ne la connais pas. Tu es l'enfant de ta patrie, tu aimes salir ta dynastie, choisir un chemin déjà tracé, marcher loin des routes enneigées. Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es? Le ciel, tu le visites souvent. Des nuages pris entre les dents. Tu voudrais partir sur la mer comme les marins de Fassbinder, toujours noyés dans tes contrées. Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es? Mais sais-tu vraiment qui tu es?
Voulez savoir de quoi on a de l'air puis qu'est-ce qu'on mange en hiver? Venez découvrir notre site web antenne.qc.ca, antenne.qc.ca.
Nous sommes maintenant au bloc expresso. Bonjour Pierre Laporte.
Salut Yvan.
Alors, à ce bloc expresso, l'importance de la routine chez l'enfant.
Oui.
C'est d'une importance capitale, je pense.
Hein? D'après l'article que j'ai trouvé sur Internet, qui s'appelle justement comme ça, les routines, c'est important. Oui, on dit que c'est important chez l'enfant. C'est important aussi pour plusieurs adultes parce que ça enlève une espèce de stress sur beaucoup de gens, de seulement avoir à suivre une espèce de routine, une cédule.
Sauf que je dirais que, en tout cas, on va voir d'après tes propos, mais chez l'adulte, des fois, on veut casser la routine, justement. Oui. Alors que l'enfant, je pense qu'il y a peut-être une sécurisation, une sécurité avec la routine, en tout cas. C'est pas...
C'est vrai, oui, mais c'est vrai que la routine, ça peut devenir ennuyant.
Des fois, on veut changer la routine.
Exactement.
Dans notre cas, en tout cas.
Exactement. Puis on remarque aussi dans la vie de tous les jours qu'il y a des gens qui sont plus routiniers que d'autres. Il y en a même qui sont très, très routiniers.
Oui, oui. Il y en a qui n'aiment pas ça, comme moi, là. Ils n'aiment pas la routine. Fait que oui. Ça dépend des gens.
Alors, j'ai trouvé cet article, les routines, c'est important. C'est d'après Mme Nathalie Valorant, qui est rédactrice indépendante. C'est sur le site naître-et-grandir.com, un site québécois.
Ouais.
Alors, elle nous dit, pour se sentir en sécurité et en confiance, les enfants ont besoin d'avoir des journées prévisibles, comme Lilia, qui a 3 ans, qui suit la même routine tous les jours de semaine, c'est-à-dire le réveil vers 7 heures, la séance de câlins avec maman, le déjeuner, les jeux, le choix des vêtements avec l'aide de papa, l'habillage, le brossage des dents, préparation du sac à dos pour la garderie et départ finalement à 8h30.
C'est un bon programme, ça.
C'est un programme chargé. Toi, tu as élevé 3 enfants. Ouais. Est-ce qu'il y en avait comme ça une espèce de routine chez toi?
Ben, c'était pas aussi. En tout cas, c'était pas écrit. Peut-être qu'il y en avait une, mais non, c'était pas écrit comme ça. Mais oui, j'imagine qu'il y en avait une.
Ouais. Pour Mme Nicole Malenfant, qui est auteure et enseignante en éducation à l'enfance, elle nous dit: les routines sont des actions qui reviennent chaque jour dans le même ordre et au même moment. Elle sécurise et réconforte les tout-petits car elle leur procure de la stabilité et leur permet de prévoir ce qui s'en vient. Cela leur donne l'impression d'avoir du contrôle sur leur quotidien. Ils vivent alors moins de stress et d'anxiété. Madame Nathalie Parent, qui est psychologue et auteur, nous dit « Souvent, les routines s'installent naturellement. C'est toutefois autour de 6 mois, lorsque le rythme du bébé devient plus régulier, qu'il est plus facile d'associer une période de temps aux routines. Et c'est vers 18 mois, quand l'enfant commence à être plus autonome, qu'il y participe plus activement. Un avantage des routines est qu'elles aident l'enfant à se repérer dans le temps. Madame Malenfant nous dit « Quand la routine du soir d'un enfant commence, il sait qu'il va devoir prendre son bain, mettre son pyjama, brosser ses dents, se faire lire une histoire, puis faire son dodo. La plupart des besoins de base comme manger, boire, dormir, se laver et s'habiller peuvent d'ailleurs faire l'objet de routines. Jusqu'à 5 ans, dit-elle, environ 40% de la journée d'un enfant y est consacrée. » Pour aider votre enfant à devenir plus autonome, vous pouvez lui proposer de choisir entre 2 éléments pendant les routines. Par exemple, tu veux une banane ou une pomme? Tu veux mettre le chandail bleu ou le chandail jaune? Un autre bon côté des routines, elles deviennent des automatismes pour l'enfant. Elles sont donc très utiles le matin, au retour à la maison, en fin d'après-midi et à l'heure du coucher, lorsqu'il y a beaucoup de choses à faire en peu de temps, nous dit Mme Sarah Bourbeau. Caroline, la maman de Lilia, 3 ans, et de Sébastien, 9 ans, le constate. Elle dit « Quand mon fils était plus jeune, c'était difficile de l'arrêter de jouer pour qu'il se prépare le matin et le soir. Avec mon conjoint, on a mis en place des routines et ça a beaucoup aidé. On répétait moins. Avec Lilia, il y a toujours eu des routines et ça se passe bien. Elle sait ce qu'elle a à faire. » Les routines ne sont pas seulement bonnes le matin et le soir. Vous pouvez en avoir pour d'autres activités répétitives, comme les sorties au parc, les repas ou le rangement des jouets. Cela peut rendre le déroulement de la journée plus facile, en plus d'aider votre enfant à prendre de bonnes habitudes. Puis, je me rappelle, Yvan, quand je vivais avec mes parents, même le chien avait sa routine.
Oui, bien, souvent, les animaux fonctionnent beaucoup par routine. Puis,
oui, c'est vrai.
Ouais. Mais des fois aussi, ce qui se passe, pendant que tu parlais, ça m'est revenu, mais la garderie donne beaucoup de routines. Ouais. Nous autres, on a des enfants à la garderie, fait que c'est sûr que la grosse partie de routine était dans le jour, parce que du matin au soir, du matin en fin d'après-midi, tu as gardé. Ouais, donc,
ouais. Je me rappelle mon père qui est décédé depuis longtemps, mais lui, il était très routinier. Ça faisait partie là, de sa personnalité. Je me rappelle que si on déplaçait sa routine, ça le dérangeait pas mal,
ouais.
Je me rappelle.
Mais comme tu disais au début, c'est ça, il y a des gens qui sont très. Ça les sécurise, même
adultes.
C'est
pas un défaut, Marc.
Non, mais il y en a d'autres qui préfèrent moins. Ouais. C'est comment on est, là, tout simplement.
Madame Valerand nous dit « Chaque famille doit trouver la solution qui lui convient. Quand c'est possible, les parents peuvent chacun s'occuper d'un enfant à tour de rôle. » Madame Nathalie Parent nous dit « Cela permet de passer du temps avec chaque enfant. » Quand l'écart d'âge est grand, les routines, celles du dodo par exemple, peuvent se faire l'une après l'autre en commençant par celle du plus jeune. Une autre possibilité, c'est d'impliquer les plus vieux dans les routines des plus petits. Un grand frère ou une grande sœur pourrait ainsi lire l'histoire ou aider l'habillage du plus jeune de temps en temps. Si vous n'avez jamais mis en place de routine, il n'est pas trop tard pour commencer. Madame Malenfant nous dit « Allez-y graduellement avec une routine à la fois. Il vaut mieux commencer par la routine du dodo car c'est la plus importante. L'idéal, c'est de procéder petit à petit en intégrant deux éléments à la fois dans une routine. Par exemple, prendre le bain après le souper puis mettre le pyjama. » Mais je vais m'arrêter ici, comme c'est ma routine.
Ah oui, c'est ta routine de t'arrêter pour poursuivre plus tard à l'espresso allongé le même sujet, l'importance de la routine chez l'enfant.
Vous écoutez Folie douce, témoignages, entrevues d'experts, chroniques, toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission.
J'accueille maintenant notre invitée, Karine. Bienvenue à Folie douce.
Bonjour, merci.
Voilà. On fait suite, en fait, à l'entrevue qu'on a eue un petit peu plus tôt dans l'émission avec Joanna Murphy, qui nous parlait de l'organisme Carrefour Aliénation parentale, qui nous expliquait aussi les grandes bases de l'aliénation parentale. Vous êtes un parent, en fait, qui a vécu ça. Donc, on a un exemple concret. On va peut-être encore mieux comprendre qu'est-ce que c'est. Pouvez-vous d'abord nous parler peut-être de votre histoire? Comment vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui est arrivé?
Ben oui, je vais essayer de vous expliquer vraiment dans les grandes lignes parce que nous, dans le fond, moi, je me suis séparée en 2011, donc ça fait déjà 11 ans là qu'on vit à travers cette dynamique-là d'aliénation parentale. Moi, j'ai eu trois grandes filles, finalement trois filles avec ce papa-là, et les trois ont été exposées au comportement aliénant du père, mais vraiment là depuis un très jeune âge là, ils avaient 5 ans, 3 ans et 2 ans quand on s'est séparés. Donc ils ont vécu là-dedans là, les premières années, c'est quelque chose d'assez insidieux, hein. Ça s'installe vraiment tranquillement par des comportements, des phrases, des petits mots de temps en temps là, qui vont venir travailler dans l'esprit des enfants. Moi, c'est vraiment ma grande fille qui a subi vraiment beaucoup plus là, les comportements aliénants là, de papa, puis qui a vraiment mordu là, à cette dynamique-là, qui a répondu là, à cette demande-là du père de vraiment faire un choix là, au niveau de ses parents.
Tu sais. Ouais. Est-ce que vous aviez entendu parler avant de vivre ça? Saviez-vous que ça existait ou est-ce qu'on pouvait nommer ça l'aliénation parentale?
Non, je connaissais vraiment pas ça, puis je m'en suis pas rendu compte avant que ma grande ait 11 ans. Vraiment, là, moi, c'est vraiment quand elle a commencé la sixième année qu'elle a vraiment vécu là, ce qu'on appelle un conflit de loyauté sévère, là, où elle me criait après qu'elle devait aller vivre chez son père, que si je voulais son bonheur, c'était ce que je devais faire. Elle refusait de me parler au retour des contacts de chez son père. Elle se refusait à passer du temps en famille. Elle s'est mise à s'isoler, à vivre beaucoup d'anxiété, de l'insomnie. Fait que moi, je suis allée lui chercher de l'aide. Je suis allée lui chercher une travailleuse sociale qui elle, m'a expliqué qu'elle vivait un conflit sévère de loyauté, qu'elle était prise dans le conflit, qu'elle était au courant, dans le fond, de tout ce qui se passait, parce qu'on avait une séparation assez difficile quand même. Puis elle m'a nommé qu'elle était vraiment la confidente de papa, qu'elle prenait vraiment partie active là au conflit, puis qu'elle en souffrait énormément. Là. Fait que moi, c'est vraiment à partir de là que j'ai commencé à entendre parler, si vous voulez, de la dynamique d'aliénation parentale, mais je pensais jamais qu'on se rendrait où on s'est rendu là avec ma fille, mais ça m'a vraiment frappé d'un coup, là. Vraiment.
Et qu'est-ce que ça... Ben, à part justement peut-être le l'aspect peut-être qui a l'air... c'est l'aspect troublé, en fait, dans votre cas de votre fille aînée. Est-ce qu'il y avait d'autres problématiques qui sont apparues à cause de ça, autant peut-être de votre côté ou du côté de votre fille surtout?
Bien, absolument. En fait, là, ça a été... ça s'est joué sur quelques années. Là. Nous, ma fille, elle a vraiment commencé à avoir... accepté insomnie et tout. Elle s'est mise elle s'est mise à faire de l'automutilation, alors elle s'est vraiment mise à chercher de l'aide partout. Puis entre-temps, nous, la travailleuse sociale, elle en a vu deux ou trois. On a eu des professeurs qui ont porté plainte à la DPJ, puis on a eu la DPJ qui est rentrée dans nos vies à ce moment-là, puis qui nous a aidés, si on veut, à passer à travers ces deux années-là, en fait. Là. Mais ma fille, ça a juste continué à se dégrader, puis moi aussi, de mon côté, là, bien entendu, parce que ce que je vivais comme coparentalité, ça n'avait pas de sens. Là. C'était c'était du harcèlement, c'était des reproches constants, mais autant de la part du père que de la part de mon enfant. Fait que moi, j'en ai fini qu'à avoir un diagnostic de trouble d'adaptation avec humeur anxio-dépressive. Hein. C'est un gros terme, mais pour montrer que la situation était très perturbante. Puis, je vivais, dans le fond, une incompréhension, puis perte de contrôle totale de ce qui se passait. Ma fille, elle, malheureusement, ces abus-là lui ont créé un trouble de la personnalité limite. Elle doit vivre avec ça aujourd'hui, là, avec les conséquences de ça. Elle continue à avoir de l'automutilation. Le 4 janvier dernier, elle a fait une tentative de suicide. C'est vraiment quelque chose qui a un impact à long terme.
Très difficile. Et notre invité, justement, Mme Murphy, nous disait que l'organisme Carrefour Aliénation Parentale essaie justement de prévenir ce genre de situation-là. C'est peu connu. Moi, je ne le connaissais pas. Puis avant que ça vous arrive, je pense que vous n'étiez pas très au courant non plus de la chose. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui ne connaissent pas qu'il y a des problématiques de cette façon-là qui peuvent arriver. C'est important d'en parler, de prévenir surtout. Hein.
Absolument. Absolument. Puis je vous dirais que c'est souvent perçu comme étant un conflit sévère de garde, hein. On entend ça souvent. Moi, je l'ai entendu énormément de la DPJ qui est encore dans nos vies après 4 ans. J'ai connu le Carrefour d'aliénation parentale, moi, au moment où ma fille est partie vivre chez son père, il y a 2 ans, un peu en même temps là, que la COVID est arrivée.
Ouais.
Puis moi, j'étais en rupture de lien finalement avec mon enfant là, à ce moment-là. Là, elle refusait de me voir. C'était assez intense. Puis c'est en faisant des recherches sur Internet là, que je suis tombée sur le Carrefour d'aliénation parentale puis que j'ai réussi à parler avec Johanna qui m'a, mon Dieu, donné des données, redonné le lien avec mon enfant. Elle m'a montré que j'avais un pouvoir sur la situation puis que je pouvais agir puis que je pouvais travailler mon lien avec ma fille. Puis ça l'a sauvé ma relation. Là. C'est le fait d'en parler, le fait de comprendre qu'on a un pouvoir quand même si on est un parent rejeté, c'est tellement important puis ça redonne tellement de l'espoir.
On doit surtout se poser la question comme parent, pourquoi elle nous rejette? Au début, ça devait être votre interrogation. Pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle me rejette comme ça?
C'est quelque chose que... Oui, l'incompréhension est là. mais on le voit, on le sent, on le sait. On le sait parce que l'enfant va prendre des paroles de l'adulte qu'on a déjà entendu, qu'on entend régulièrement. C'est vraiment, on voit la dynamique qui se crée, le lien fusionnel qui va se créer entre le parent aliénant puis notre enfant. Puis on voit là qu'on est finalement une guerre là, où on est seul de notre côté là. Mais oui, c'est complètement déroutant parce que notre enfant peut arriver puis nous dire. Nous dire à quel point on est un mauvais parent, qu'on n'a pas de bon sens, que c'est dont arrive venir chez nous, puis tout ça parce qu'on n'a pas la bonne marque de pâte à dents là, tu sais, à la maison. Ça devient un outil finalement qui peut être utilisé à l'aliénation. Fait que c'est complètement déroutant. C'est pour ça qu'il faut chercher de l'aide.
Oui, après coup, vous vivez quand même une situation, j'imagine que ça s'est amélioré un peu avec l'aide que vous avez reçue, puis avec peut-être des trucs que vous avez eus pour essayer de garder une bonne relation, surtout avec votre fille aînée. Les autres enfants, je pense que ça va avec vous?
Oui, bien, les autres enfants ont été moins touchés. C'est vraiment les trucs qui nous ont le plus aidés, ça a vraiment été, ben, au départ, là, c'est vraiment avec le Carrefour, là, puis Johanna qui m'a aidé à reprendre le contrôle, puis à m'apprendre comment agir avec mon enfant, hein, parce que mon enfant arrivait totalement, en fond, plein de pression à la maison, puis je devais l'apaiser. Mmh. Ça l'a aidé. Par la suite, moi, on a la chance d'avoir la DPJ avec nous, là. On a une équipe formidable. On a maintenant la pédopsychiatre, on a une psychologue pour mon enfant, on a un éducateur qui est expert en troubles de personnalité limite. On a vraiment beaucoup, beaucoup d'aide et de soutien aujourd'hui. Hein. Puis c'est bien parce que ma fille, malgré qu'elle est sortie du milieu de son père depuis maintenant un an, c'est tellement quelque chose d'insidieux qui est long à s'installer que c'est aussi long à déprogrammer.
Ouais.
Donc, elle a besoin de ce support-là encore. Aujourd'hui, ça fait un an qu'elle n'a pas eu de contact, elle, avec son père. Mes deux autres enfants, elles ont des contacts supervisés avec leur papa. Puis pour le moment, ça se passe bien. Ils ont travaillé du côté du papa aussi. Hein? Donc, pour lui démontrer aussi que ce qu'il faisait, c'était de l'aliénation parentale parce que c'est pas tout le monde qui le fait d'une manière non plus négative. Je pense qu'il y a beaucoup de parents aliénants qui ne savent pas non plus que ce qu'ils font, c'est de l'aliénation parentale.
C'est ça l'affaire, c'est ouais. Que des fois, c'est volontaire et involontaire. C'est pas comme tel, comme vous le dites. C'est peut-être ils savent pas que le mal qu'ils vont faire, finalement, en faisant ce genre d'attitude-là qu'on nous expliquait justement dans la première entrevue avec Mme Murphy. Là.
Exactement. Exactement. Je vous dirais que probablement que le parent souffre énormément aussi, mais il y a une dynamique qui vient s'installer où l'enfant et le parent deviennent autant sauveurs et victimes l'un avec l'autre contre le même ennemi, hein, qui se pouvait être moi dans ce cas-là, mais les deux s'entretenaient là-dedans.
Oui.
Et moi aussi, en réagissant, en essayant de raisonner mon enfant, parce qu'on a on agit d'une façon instinctive, où on fait, ben voyons, mais qu'est-ce que tu dis là? Mais je t'aime, mon enfant, puis pourquoi tu me parles comme ça? Puis pourquoi? Puis on essaye de raisonner, puis on fait juste comme alimenter, finalement, ce cercle vicieux-là de l'aliénation parentale, puis le rejet. Fait qu'il faut vraiment mettre un stop, puis faut vraiment connaître les astuces, finalement, pour déjouer cette aliénation-là.
Les parents qui nous écoutent actuellement, qui vivraient une situation comme ça, vous leur diriez quoi? Vous leur conseilleriez quoi pour justement améliorer la situation?
Ah, mon Dieu, ma fille leur dirait de ne pas avoir d'attente ou de ne pas mettre leurs attentes sur le dos de leur enfant parce qu'on est tellement blessés nous-mêmes. On voudrait donc comprendre et on voudrait donc qu'ils nous expliquent qu'est-ce qui se passe puis sont pas capables. Ils vivent la culpabilité de ça. Fait que moi, je leur dirais d'aller chercher de l'aide pour eux aussi parce que les enfants, ils ont besoin d'un parent qui sont forts puis d'être indulgent envers eux. Puis d'accompagner, puis d'être juste la lumière pour leur enfant.
De beaucoup.
D'être le plus positif possible.
Est-ce que la communication, j'imagine, c'est toujours gagnant, la communication, là, de communiquer le plus possible, mais en même temps, il faut savoir comment le faire, comment communiquer?
Je pense que c'est du cas par cas.
Oui.
Oui, il y a des périodes où ça va être propice, il y a des périodes où ça peut être pire. Je pense que c'est vraiment d'être accompagné par les bonnes personnes. Le Carrefour est vraiment la meilleure place, la meilleure la meilleure analyse pour chaque dossier. C'est vraiment important là, c'est comme un jeu d'échecs, hein, de jouer l'aliénation. Donc, il y a des fois que ça va être bien, des fois que ça va être moins bien. Mais c'est d'accueillir, je pense que c'est d'accueillir simplement son enfant, malgré tout ce qui se passe, puis d'être présent, puis de leur montrer qu'on est juste là, puis qu'on est prêt à les recevoir quand ils vont être prêts.
Oui, il reste moins d'une minute, donc avez-vous quelque chose à rajouter, peut-être un encouragement à certains parents? J'imagine que ça évolue quand même assez bien actuellement pour vous.
Oui, ben je veux démontrer que c'est faisable, qu'on est capable de revoir contact, de revoir un lien avec son enfant. On en est la preuve, moi et ma fille, hein, j'avais une rupture complète de contact avec elle, puis on a réussi à renouer malgré tout ce qui s'est passé. Fait qu'il faut garder espoir, puis c'est en parlant, qu'on réussit à déjouer, puis... Ce sera un message d'espoir que je veux lancer.
Merci beaucoup. C'est très généreux de votre part, le témoignage. J'espère que ça va bien aller pour les mois et les années à venir. Je crois que ça c'est bien parti, mais je vous souhaite le meilleur pour la suite avec vos enfants, bien sûr.
Merci beaucoup.
Merci, Karine, d'avoir été avec nous à Folie douce.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Yo, Pierre Quenders. Jacobus. New Year's Eve à la discothèque. Je vois tes belles mots comme un mental wreck. Go, go, c'est tellement slow. Il faut le belly up, get down and go. Go, go, c'est tellement slow. Il faut le belly up, get down and go.
Folie douce, qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles.
Nous poursuivons micro avec l'espresso allongé et l'importance de la routine chez l'enfant, Pierre.
Oui, d'après un article que j'ai trouvé sur Internet, écrit par Mme Nathalie Valeran, qui est rédactrice indépendante. J'ai pris ça sur le site de naître-et-grandir.com, un site québécois. Donc, les routines, c'est important. Alors, Madame Valeran nous dit « La routine n'a pas besoin d'être stricte. vous pouvez vous donner une certaine marge de manœuvre. Par exemple, quand David Michael, il y a 5 ans, est chez son papa Patrick, la routine du dodo se termine parfois par la lecture d'une histoire ou parfois par l'écoute de musique. Madame Nathalie Parent, qui est psychologue, nous dit « Ce n'est pas grave non plus de modifier la routine à l'occasion en sautant une étape ou en changeant l'ordre. L'important, c'est de dire à l'enfant que c'est une exception. » Lors de la routine du soir de Justine, qui a 5 ans, ses parents lui font un petit message à tour de rôle. C'est précieux pour elle, dit sa mère Stéphanie. Elle nous dit, même si l'un de nous deux est absent, on la prévient et ce n'est pas un problème. Madame Sarah Barbeau nous dit, la routine ne doit pas comporter trop d'étapes, sinon l'enfant ne se souviendra plus de ce qu'il doit faire et dans quel ordre. La routine doit donc s'adapter et l'âge est aux capacités de l'enfant. Selon Mme Nicole Malenfant, elle nous dit « Ennuyante la routine, pas si vous y ajoutez du plaisir. » Elle nous dit « Essayez de changer votre regard sur les routines pour les voir comme des occasions de passer du bon temps avec votre enfant. Vous y gagnerez. » Car lorsque la routine est agréable, l'enfant collabore davantage. L'histoire avant le dodo en est un bon exemple. Vous pouvez en profiter pour poser des questions à votre enfant ou lui demander d'imaginer ce qui se passera à la prochaine page. Le matin, pour motiver votre enfant à terminer sa routine à temps, vous pouvez aussi lui permettre de faire une activité qu'il aime lorsqu'il sera prêt, comme par exemple faire un casse-tête, un dessin, des jeux, etc. Maintenant, 5 questions sur les routines. Premièrement, première question. Quand c'est difficile de démarrer la routine du soir, comment aider mon enfant? Madame Sarah Bourbeau nous dit, quand un enfant doit arrêter une activité qu'il aime pour se préparer à aller dormir, c'est normal qu'il soit frustré et qu'il résiste. Elle nous dit, la clé pour que ça se passe mieux, c'est souvent de le prévenir quelques minutes à l'avance. Pour cela, il vaut mieux utiliser un sablier ou une minuterie pour rendre le temps plus concret pour votre tout-petit.
Mais c'est ce que j'allais dire, mais souvent même verbalement, moi, par expérience, de dire dans 15 minutes, genre, ou dans quelques minutes, on va, tu sais, fait que tu prépares verbalement. Parce que jusqu'à un certain point, sablier, je me demande si ça ne peut pas stresser certains enfants.
Je sais pas.
Chacun ses choix.
C'est pas tout le monde aussi qui ont des sabliers à la maison.
Non plus, oui.
Pour que votre enfant collabore, Mme Valerin nous dit, vous pouvez aussi lui offrir des choix simples, comme par exemple, quel jouet veux-tu apporter dans ton bain? J'éteins la musique ou c'est toi qui l'éteins? Je choisis l'histoire ou c'est toi qui choisis? On peut aussi afficher des images de chaque étape de sa routine. Cela peut aider votre enfant à se responsabiliser. En les voyant, il sait ce qu'il doit faire sans que vous ayez à lui répéter. Aussi, on peut rendre la routine amusante. C'est ce que fait Caroline quand sa fille Lilia, 3 ans, ne veut pas prendre son bain. Elle nous dit « J'utilise une poupée et je la fais parler comme si elle l'invitait à jouer dans l'eau. »
Ouais, c'est une bonne stratégie.
Ça vous tue un peu marionnettiste, peut-être?
Ouais, un ventriloque.
D'autres idées, comme sauter comme un kangourou, par exemple, pour aller à la salle de bain, ou ranger les jouets en chantant, ou disposer le pyjama de votre tout-petit par terre en formant un bonhomme, etc. Donc, tu l'amuses, puis en même temps, tu le leurres.
Faut être créatif.
Oui. Deuxième question, les routines peuvent-elles empêcher mon enfant de s'adapter aux imprévus? Madame Valerand nous dit, il ne faut pas trop s'inquiéter à ce sujet. Oui, les routines apportent une stabilité dans le quotidien d'un enfant, mais il est normal qu'il y ait parfois des imprévus. Par exemple, un parent revient plus tard de travailler et l'étape du bain saute. Ou encore, l'enfant arrive à la garderie un matin et son éducatrice est remplacée pour la journée car elle est malade. Même si ça peut être déstabilisant au début, la plupart des tout-petits apprennent naturellement à s'adapter à ces imprévus. Les fins de semaine peuvent d'ailleurs être utiles pour habituer un enfant au changement. Patrick, qui est le papa de David Michael, 5 ans, nous dit « C'est plus relax la fin de semaine. Mon fils se couche et se lève plus tard. Rien ne presse. Notre seule routine, c'est d'aller voir les grands jouer au hockey à l'aréna près de chez nous. » De son côté, Justine, 5 ans, a le droit de regarder la télévision les matins de fin de semaine. jamais la semaine. Et ça ne les déstabilise pas, assure sa maman Stéphanie. Elle comprend que les choses ne sont pas toujours pareilles. Troisième question. Mon enfant aime trop la routine. Est-ce inquiétant? Certains tout-petits ont un tempérament plus anxieux et réagissent fortement dès que leur routine change un peu. Nathalie Parent nous dit « Quand c'est possible, préparez votre enfant au changement en lui en parlant à l'avance. Sans dramatiser les choses, vous pouvez lui dire que vous savez qu'il n'est pas content ou qu'il est inquiet. Reconnaître les émotions de votre enfant peut l'apaiser car il se sent alors compris. » Pour aider votre enfant à s'habituer au changement, vous pouvez sauter une étape de sa routine à l'occasion ou en inverser l'ordre. Madame Sarah Barbeau nous dit « Une bonne façon de lui donner envie d'embarquer, c'est d'en faire un jeu. » Par exemple, le vendredi, vous pouvez mettre dans un sac des images des étapes de sa routine du soir et lui en faire piger une. Ce sera par là que la routine commencera ce soir-là. C'est amusant et ça permet de rendre la routine plus souple. Mais je m'arrête ici et vous pourrez lire la suite de cet article qui s'appelle « La routine, c'est important ». C'est écrit par Mme Nathalie Valarant.
Merci beaucoup Pierre pour ce sujet.
Souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. antenne.qc.ca. antenne.qc.ca.
Quelques secondes pour terminer ce rendez-vous. Alors Pierre, on va nommer les chansons qu'on a pu entendre cette semaine,
oui,
à l'émission. On the Run, la première qu'on a entendue.
Oui, de Liana.
On a entendu « Sais-tu vraiment qui tu es? »
De Pierre Lapointe.
Presque ton homonyme, mais pas tout à fait.
Oui.
On a entendu en deuxième demi « Faire la fête »
de Jacobus avec Pierre Quenders.
Et à l'instant, « N'importe quelle langue »
de Céd Auger avec Sarah Fortin.
Ben merci pour ton choix musical et ta mise en onde.
Ben bienvenue, mon cher.
Merci également pour tes espressos, dont tu nous as parlé de l'importance de la routine chez l'enfant.
Mm-hmm.
Notre invité en début d'émission, Johanna Murphy, nous a mieux fait connaître l'organisme Carrefour Aliénation Parentale. Et pour aider à mieux comprendre encore ce que c'est, on a eu un parent en début de deuxième demi, Karine, donc, qui a vécu justement l'aliénation parentale, qui est venue partager son expérience. Alors, merci beaucoup à nos invités. Et merci à vous de nous avoir écoutés. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.